Tous les jours à 12h15 et 19h15,
Je vous dis pas,
votre magazine d'information locale.
On accueille sur Neptune FM Bernard Lemoult, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'école des mines de Nantes et directeur du collège des transitions sociétales, c'est bien ça ?
Exactement.
Et vous serez sur l'île-Dieu du 28 mai au 31 mai pour la fin d'une formation du réseau national des collèges de hautes études en développement durable. Le thème est la transition énergétique et climatique sur le territoire de l'île-Dieu. C'est bien ça aussi.
Exactement, vous avez tout bon.
Le collège des transitions sociétales, qui c'est et qui participe ?
Alors, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur ce qu'on appelle transition sociétale, mais c'est...
On y revient tout à l'heure, exactement.
Voilà. Il n'échappe à personne qu'on traverse un certain nombre de crises que certains appellent d'ailleurs mutations ou métamorphoses. Et donc, face à ces grandes questions de société qui se posent, quelles sont les réponses à apporter ? Et le Collège des transitions sociétales est une formation destinée à une vingtaine de personnes en décision sur... dans des organisations du territoire de la région des Pays de la Loire, donc des personnes ça peut être des élus, des responsables d'entreprise, des responsables en collectivité, des associations alternatives, donc une vingtaine de personnes qui ont des leviers d'action dans leurs organisations et avec qui pendant une douzaine de jours, donc deux fois six jours, 6 fois 2 jours plutôt, puisque ce sont des séries de 2 jours, on va explorer des nouveaux modèles dans le domaine de l'économie, de l'agriculture, de la gouvernance, de la biodiversité, voilà.
C'est ce qu'on entend par transition sociétale, c'est bien ça ?
Voilà, exactement. Alors c'est peut-être un mot que certains découvrent, mais il est de plus en plus mis sur la place publique. Alors,
on est bien d'accord.
Ça recouvre quoi ? Alors ça recouvre les enjeux dont on entend parler sur la place publique, dans les médias et autres.
Par exemple, les éoliennes ?
Alors c'est les questions énergétiques, je vais prendre cet exemple-là parce qu'on en parle le plus. Quand on regarde l'énergie dans l'histoire de l'humanité, en fait on s'aperçoit que c'est à partir du début du 19e siècle avec l'invention des grandes lois de la thermodynamique que nos sociétés ont complètement explosé en termes de développement. Si aujourd'hui on se parle par téléphone, si on a accès à Internet, si on peut aller à l'autre bout de la planète, si on a la mondialisation, c'est parce que on a su développer les systèmes énergétiques, la démultiplication de la force et donc de l'énergie au cours des 150 à 200 dernières années. On l'a fait sur la base des énergies fossiles, pour faire court, et ces énergies fossiles posent deux questions aujourd'hui.
Les déchets, non ?
Alors, les déchets, si on parle
de nucléaire.
Du nucléaire, mais on est quand même très marginal en France hein, sur le nucléaire. La majorité du monde fonctionne sans nucléaire, mais fonctionne par contre avec des énergies fossiles qui présentent deux inconvénients. La première, c'est tout le monde sait qu'une énergie fossile par nature est non renouvelable. Et c'est officiel hein, depuis 2010, la production d'énergie de pétrole sur Terre a commencé à diminuer à cette période. Donc quand vous avez 2 milliards de personnes qui arrivent dans les 30 prochaines années, 1 milliard en Asie et 1 milliard en Afrique, et que tout le monde a envie d'atteindre nos modes de développement qui sont hyper sympas quand même en termes de culture, développement, loisirs, travail, mais qui mobilisent énormément d'énergie, il y a un tout petit problème d'adéquation entre la disponibilité de ces énergies fossiles, dont le pétrole, et puis les besoins de l'humanité par rapport au mode de développement qu'on a choisi. Ça, c'est le premier inconvénient. Et le deuxième, alors qui est encore pire, c'est l'impact sur le climat, puisque brûler, c'est le charbon, le pétrole et le gaz, produit des gaz à effet de serre qui provoquent des changements climatiques qui sont de plus en plus forts sur la planète. Alors en France, on voit un petit peu particulier sur dans les montagnes, mais sur le reste de la planète, je peux vous dire que tout le monde, que ce soit en Australie, en Argentine, aux États-Unis, demandez aux Californiens par exemple s'ils voient des changements. Les changements climatiques sont de plus en plus forts et donc on ne pourra pas continuer à consommer ces énergies fossiles. À la fois parce qu'il y en aura de moins en moins et à la fois surtout parce que ça provoque des changements climatiques majeurs. Et donc la question qui vient juste après, qui est, elle est, et d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et d'où, d'où les grands débats sur les énergies renouvelables, les grands programmes que lancent l'Allemagne, le Danemark sur une énergie à 80% en 2050 issue d'énergie renouvelable.
Et ça, c'est jouable, 80%?
Alors, il y a deux manières de voir. On peut dire c'est pas jouable, donc on continue comme avant. Mais là, maintenant, on est tous à dire que continuer comme avant, ça, c'est encore moins jouable.
Et ça, c'est pas possible, d'accord?
Donc c'est pas possible. Et donc comme c'est pas possible, on a le cap d'aller vers des énergies renouvelables et une cible est les 80%. Est-ce qu'on l'atteindra ou pas? On verra bien, l'histoire nous le dira, mais en tout cas, c'est une cible que chaque pays, comme que je viens de citer, le Danemark, l'Allemagne et d'autres, se fixent parce que c'est la seule voie viable pour un avenir pacifié, parce que c'est aussi ça qu'il faut voir, quoi.
Et quels sont les futurs défis sociétaux pour l'Île-Dieu dans les prochaines années?
Alors, l'Île-Dieu n'échappera pas aux grands enjeux qu'on évoque. On a évoqué le...
Oui, parce qu'on pourrait se dire on est excentré par rapport au reste du monde. C'est une île.
Exactement. C'est ce que disent les Anglais en disant bon, on n'est pas tout à fait sur le continent européen, mais en fait, ces questions climatiques, énergétiques, alimentaires, parce qu'on va pas faire la liste de toutes les crises qu'on traverse. Sur la biodiversité et autres, vont impacter tout le monde, quel que soit qu'on soit sur le territoire. Alors, on parlait d'îles, vous avez déjà des îles qui sont impactées de plein fouet sur la montée des eaux et qui sont déclarées officiellement comme pays réfugiés climatiques, parce que la montée des eaux dans les océans va être de l'ordre de 1 mètre d'ici la fin du siècle, et ça va continuer après, et donc certaines îles vont complètement disparaître. Donc les îles vont être impactées par la montée des eaux d'ici dans la fin du siècle, donc on peut se dire aussi, oui, mais la fin du siècle, c'est loin, donc on verra plus tard.
Mais les petits-enfants arrivent.
Voilà. Ceci dit, il y a des enjeux qui vont impacter tout de suite ou très rapidement les territoires, dont l'Île-Dieu. C'est des questions énergétiques, puisque aujourd'hui l'Île-Dieu est approvisionné effectivement sur via 3 câbles provenant du continent. Le continent lui-même a quelques difficultés sur les questions énergétiques, forcément l'Île-Dieu est concerné.
Donc, et impacté, d'accord. Oui.
Voilà, l'agriculture et l'alimentation, pareil. Le transport, pareil. La navette, elle ne fonctionne pas aujourd'hui au solaire pour aller de Fromentine
à
l'Île-Dieu. Voilà. Donc, les grandes questions qui se posent pour l'Île-Dieu comme pour d'autres territoires, c'est comment se préparer aux grands enjeux qui viennent en matière d'énergie, d'agriculture, encore une fois, de biodiversité, et puis une lame de fond aussi qui n'a échappé à personne, c'est les questions de gouvernance et qui sont relatives à comment co-construire ensemble cet avenir, c'est-à-dire les niveaux de changement sont à atteindre sont tels en matière d'énergie, il suffit de regarder les ambitions de la future loi de la transition énergétique, qu'on se rend compte que c'est pas l'État et c'est pas la collectivité qui seule va pouvoir apporter des solutions. Quand on parle par exemple de réduire de 50% nos consommations d'énergie finale, c'est-à-dire quand vous allumez l'interrupteur, quand vous vous déplacez, etc. Il va falloir qu'on fasse un effort de 50% de réduction de nos consommations d'ici 2050, c'est-à-dire dans 35 ans. On se rend bien compte que c'est pas une directive européenne ou un arrêté ministériel ou une décision municipale qui va faire que ça va marcher. Donc ça veut dire qu'il va falloir impliquer et associer la population à ces changements de mode de vie, parce que habiter, manger, se déplacer, il va falloir faire autrement. Et donc la question, c'est comment garde-t-on notre qualité de vie tout en faisant autrement.
On peut plus faire marche arrière maintenant.
On peut s'accrocher à un modèle qui a montré ses limites et que certains qualifient aujourd'hui d'à bout de souffle. Donc on peut s'accrocher en disant mais non, on va s'en sortir. Et puis de plus en plus de personnes quand même considèrent qu'il faut absolument aller vers des transitions, d'où la question des transitions sociétales. On a encore une petite fenêtre de tir de quelques années devant nous pour amorcer ces transitions. mais il est clair qu'il faut avoir la responsabilité de s'engager à faire évoluer nos modes de vie. C'est pas simple, hein, on n'a pas la solution, on ne sait pas comment faire, mais on sait qu'il va falloir y aller, et y aller collectivement.
Collectivement, c'est les associations, le gouvernement, les communes, les communautés de communes, les agglomérations par exemple.
Exactement, tous ensemble, avec un mode de fonctionnement différent de ce qu'on a pu connaître par le passé, c'est-à-dire c'est pas une collectivité ou un État ou un représentant de l'État qui décide et puis les habitants ou les autres citoyens appliquent. Non, c'est une co-conception, une co-construction. Pourquoi ? Parce que tout simplement les modes de vie, c'est les gens de tout le monde, c'est vous, c'est moi, qui mieux est à même de faire évoluer ces modes de vie que ceux qui sont dans ces modes de vie. Donc il va falloir qu'on s'implique nous-mêmes dans ces changements à apporter.
Par contre, les citoyens seront-ils écoutés ? C'est ça aussi la problématique.
Alors c'est à double sens, c'est-à-dire que vous avez effectivement des collectivités qui ont pris le pli depuis des années et des années. Enfin, ça c'est culturel, hein, de dire c'est nous qui décidons, on va faire une pseudo-consultation, c'est-à-dire on va faire une réunion pour vous informer, et puis on appelle ça une consultation, une co-construction. Bon, ça ne fonctionne plus, ça d'abord personne ne vient à ces réunions, ou alors 2-3 personnes, donc ça ne fonctionne plus. Et puis vous avez aussi de l'autre côté des associations qui sont très très réticentes à travailler avec les élus, avec les entreprises, en disant les élus sont hors sol, les entreprises ne pensent qu'à faire de l'argent, c'est les méchants, voilà. Donc chacun doit faire un pas vers l'autre pour essayer de comprendre, d'être bienveillant, avec beaucoup d'humilité, pour co-construire cet avenir dont on parle. Donc il n'y a pas que les collectivités qui ont effectivement à changer, mais les citoyens aussi ont. C'est un apprentissage collectif, il faudra un petit peu de temps, mais il n'y a pas d'autre choix.
Il y a une sacrée marche à passer pour avoir un bon avenir.
Ouais, mais c'est passionnant, je trouve, de se réinterroger nos sociétés, sur le sens de nos sociétés.
Et nos modes de vie, surtout.
Oui, les modes de vie. Et puis, ce qui ressort aussi, c'est les grandes questions entre nos besoins et nos envies. On a des besoins qui sont de se nourrir, de boire, de se chauffer, etc., qui sont limités, c'est-à-dire on peut pas trop boire, on peut pas trop manger, on peut pas. Donc là, on voit bien les limites de nos besoins. C'est assez simple. Elles sont assez physiologiques. Par contre, nos envies sont infinies. Et c'est bien ce qui pose problème aussi, c'est que on n'a pas la planète n'a pas les ressources pour combler à la fois nos envies, nous, de pays développés qui représentons 15% de la population mondiale, mais surtout des 9 milliards de personnes qui vont arriver. Donc nos envies, il va falloir les réinterroger. Qu'est-ce qui compte pour nous ?
Peut-être les restreindre aussi, non ?
Alors ça, c'est un mot
qui fait peur. Non.
Qui fait peur, c'est comme la décroissance. C'est un mot qui est pas très positif, parce qu'on a l'impression de perdre quelque chose. Donc, est-ce qu'on va vers une décroissance subie, ou est-ce qu'il faut accompagner la décroissance ? Bon, la limite, on est très attaché aux mots en France. On passe son temps à discuter des mots. Ce qui est clair, c'est qu'il va falloir qu'on apporte des réponses aux grandes questions qui se posent sur nos modes de vie, de manière à ce que l'avenir soit un peu plus rose qu'aujourd'hui pour les générations futures. Alors quand je dis les générations futures, c'est pas dans 60, 70 ans, c'est dans ceux qui sont sur nos bancs de l'école, ceux qui sont déjà en début d'activité professionnelle, dans des activités d'ailleurs qui sont plutôt en transition, hein. Il y a beaucoup sur les activités de réparation, d'économie circulaire, d'agriculture bio,
de circuit court. Et pourquoi venir sur les lieux ?
Alors pourquoi venir sur les lieux ? Alors on termine la formation avec 2-3 jours sur un territoire qui est particulièrement intéressant, qui est assez engagé sur ces questions de transition. Et puis les auditeurs, en fait, ils viennent simplement écouter et apprendre. Donc ils vont rencontrer des personnes sur l'île, des associations qui font des choses, y compris aussi des élus pour écouter, pour voir comment ils font, comment ils progressent, quelles sont leurs difficultés, parce que les participants à cette formation qu'on appelle les auditeurs du Collège des Transitions, effectivement, on travaillait sur les modèles, on voit bien aussi les indicateurs qu'il faudrait mettre en place, ils connaissent les monnaies territoriales, ils connaissent beaucoup de choses, mais une liste de dispositions à prendre ne fait pas un programme en tant que tel. Il y a des femmes et des hommes sur un territoire, il y a des relations humaines, il y a des manières de faire, des manières de décider ensemble, et là on c'est pas dans un livre ou c'est pas dans une conférence qu'on apprend ça, et donc le mieux c'est de venir sur place, de voir un territoire engagé comme celui de Lisieux, et puis encore une fois d'écouter, d'apprendre avec beaucoup d'humilité sur ce qu'ont à dire les habitants. On l'a fait sur un autre territoire il y a quelques années aussi, donc voilà, on va sur des territoires engagés comme à Redon, comme à Mayenne et autres, et le territoire de Lisieux encore une fois est particulièrement intéressant.
Il est intéressant aussi parce qu'il est clos, non?
Alors là aussi ça rajoute effectivement
ça rajoute aussi des problématiques.
Une problématique avec effectivement des personnes qui se connaissent bien, qui y a une culture quelque part particulière sur cette île, qui rajoute à. Alors on peut dire soit la complexité des modes de vie à faire évoluer, soit c'est une chance extraordinaire parce que du fait d'être sur un même territoire comme une île, on partage quand même on devrait partager un enjeu, une vision commune, et donc ça devrait être un accélérateur des transitions. Donc ça peut être à la fois une force et à la fois une difficulté, je crois que c'est plutôt une force.
Et sur Lisieux, vous diriez que c'est une vision globale de la transition énergétique? Ou il y a certaines personnes qui sont encore réfractaires?
Alors il y a tout, mais là aussi c'est vrai sur tous les territoires. C'est pas la question n'est pas que sur la transition énergétique, elle est sur les questions de transition de société, dont la transition énergétique. En fait, pour résumer, les grandes tendances qui ressortent actuellement, c'est comment sur mon territoire je peux au mieux produire mon énergie, mon alimentation, le plus possible de mes besoins, avant de faire appel à l'extérieur pour des questions, parce que sur mon territoire je ne peux pas produire, ou parce que pour d'autres raisons. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je peux faire sur mon territoire, et qui en plus, on se rend compte, permet de développer de l'emploi.
Et ça permet, les circuits courts permettent par exemple de proposer de l'emploi sur Lisieux.
Complètement. Et puis quand on voit ce qu'a fait les pêcheurs avec la map, ce qu'on appelle ici la map poisson de Lisieux, qui est très très connue, donc c'est assez intéressant, innovant.
Hein. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes sur Lisieux. Quel est le programme du jeudi 28 mai?
Alors le jeudi, on va commencer par rencontrer quelques élus pour que les auditeurs écoute encore une fois ce qu'ont à dire l'équipe municipale sur leur vision, sur Lisieux 2030 et la transition énergétique. Donc c'est une écoute des élus sur ces questions. Et puis l'après-midi, les auditeurs vont aller rencontrer quelques acteurs de l'île, que ce soit Lisieux Demain, le collectif agricole, le collège aussi, hein, qui a un levier extraordinaire sur les jeunes, et puis ce qu'on a appelé les pêcheurs à travers la map poisson. Donc ils vont rencontrer ces personnes, échanger, les écouter, ce qui va leur permettre de peut-être mettre du lien dans les travaux qu'ils ont pu mener auparavant dans les journées précédentes. Voilà, donc le matin, rencontre avec les élus, l'après-midi, rencontre avec des personnes d'associations actives sur Lisieux.
Lisieux Demain et le collectif agricole, je pense qu'ils ont des choses à vous dire.
Complètement, mais les élus aussi.
On est bien d'accord.
Voilà, donc tous ont des choses à dire, et nous, on a à apprendre.
Le vendredi 29 mai n'est pas ouvert au public, mais a pour but de travailler sur la mobilisation et l'investissement citoyenne pour le projet de transition énergétique. C'est bien ça ?
Voilà, c'est ça. Alors le matin, en fait, bon, il faut quand même qu'ils bossent, qu'ils travaillent un peu entre eux, hein, les auditeurs. Donc on a invité deux intervenants le matin que sont Anne Gobet de l'ADEME Pays de la Loire qui interviendra sur les projets citoyens parce que c'est une dimension qui ressort de plus en plus et qui existe énormément en Allemagne, au Danemark et ailleurs. Ce sont des projets qui sont pris en charge, organisés, pilotés par des groupes de citoyens pour lesquels la collectivité facilite, c'est-à-dire participe, mais ne pilote pas et laisse les citoyens, les habitants ou les entreprises prendre ses projets en main. Donc Anne Gobet interviendra sur ces questions de projets citoyens, des appels à projets d'ailleurs. L'ADEME a lancé des appels à projets déjà sur ces questions. Et puis la deuxième partie de la matinée, nous aurons Marie-Véronique Goduchon de l'UMO, directrice générale de l'UMO, qui est impliquée dans l'investissement citoyen, dans les projets citoyens. Un exemple, de plus en plus de projets photovoltaïques citoyens, c'est-à-dire vous avez par exemple une halle de sport d'une collectivité, et bien comme à Avigneux-de-Bretagne, des citoyens, des habitants se sont regroupés et ont proposé au maire d'investir sur une toiture photovoltaïque financée par les habitants en collectif, en partie, hein, pas tout le financement, mais ils ont piloté le projet, ils ont participé au financement de ce projet. La gouvernance est liée à ses habitants et ils ont monté ce qu'on appelle donc un investissement citoyen sur ces toitures. Donc ils contribuent par leur acte à ce changement de société qu'on appelle. Alors ça nous paraît très nouveau en France, hein, et c'est nouveau, hein. On a Énergie en Pays de Vilaine avec les éoliennes qui ont ouvert la brèche à cette démarche, au projet citoyen et à l'investissement citoyen. Il y en a d'autres de plus en plus en France, mais en Allemagne c'est très courant. Quand on pense que en Allemagne vous avez plus de 50% de l'éolien, des grandes éoliennes, hein, plus de 50% qui relèvent de l'investissement citoyen, de coopératives. Donc les grands groupes sont absolument pas centré sur ces grands projets d'éoliennes parce que les citoyens s'impliquent et investissent. Voilà. Donc Marie-Véronique nous dira comment on peut, nous, à notre échelle, s'impliquer, piloter, et quels sont les enjeux, et sans oublier le fait que les personnes qui ont le plus de moyens aujourd'hui de financement, c'est pas forcément l'État, c'est pas forcément la collectivité, mais ça reste un grand nombre de personnes, d'habitants en France. Même s'il y en a encore beaucoup et de plus en plus au bord de la route, il y en a encore beaucoup qui ont de quoi investir dans de tels projets qui ont du sens. Voilà. Donc ça, c'est la matinée. Et puis l'après-midi, il y aura un atelier où ils continueront à travailler sur un projet qu'ils ont tout au long de leur formation. Voilà le programme du vendredi.
Et le samedi, par contre, le samedi après-midi, c'est ouvert au public entre 16h45 et 18h30. 2050, nous avons réussi la transition énergétique. Quels sont nos modes de vie ? Cet atelier est ouvert, on l'a dit, au public. C'est un espace à l'escadrille.
Voilà, au premier étage de l'escadrille. Et là, c'est un exercice qu'on fait régulièrement sur des territoires ou des groupes, voire même des entreprises. Hein. On dit, voilà, dans quelques années, on a réussi notre challenge. Et notre challenge, en l'occurrence, c'est la transition énergétique. Prenons ce cas-là. On a réussi la transition énergétique en 2050. Alors, il y a deux questions. Qu'est-ce qui permet de le dire qu'on a réussi ? Voilà. Donc il va falloir qu'on identifie quels sont nos critères qui permettent de dire bah oui, on a réussi la transition énergétique. Et la deuxième question qui vient juste après, c'est si on a réussi, comment on a fait ? Voilà. Et l'idée, c'est en petits groupes de faire émerger des idées, des remarques, des propositions sur ces deux questions. Qu'est-ce qui permet de dire qu'on a réussi la transition énergétique en 2050 et comment on a fait pour la réussir ? Effectivement, on va ouvrir cet atelier à ceux qui se le souhaitent, aux habitants de l'Île-Dieu, hein, dans la limite des places disponibles, bien évidemment, au premier étage de l'escalerie, parce que c'est un un lieu vraiment très très sympathique, mais on peut pas accueillir 300 personnes. Donc c'est avec plaisir qu'on mènera cet échange. Et puis faut le voir de manière très très conviviale et puis non tout à fait informel. Hein, c'est...
Et le programme du dimanche 31 mai.
Alors dès dimanche, on fait un petit débriefing sur l'ensemble de la formation. Voilà, c'est très très intimiste et toujours dans la convivialité, parce que je pense que c'est un mot qui est transversal à toute la formation et puis qui devrait être transversal à toutes nos réunions, rencontres et autres. Hein, convivialité, bienveillance et humilité. Et on fait un débriefing sur ces 12 jours et également là plus aussi plus sérieusement, on refait un point sur l'événement et ça va peut-être être le point suivant, l'événement du 4 juin.
Si vous voulez nous en parler, allez-y, je vous en prie.
Voilà, c'est l'événement de clôture du collège, puisque les auditeurs organisent chaque année un événement de clôture sur un thème qui a été alimenté par l'ensemble des interventions des 12 journées. Mm-hmm. Ce thème est un thème qui monte en puissance aussi dans la société. C'est le titre, c'est prospérité sans croissance possible, souhaitable, utopique. Et le thème, c'est de plus en plus, les études nous disent que la croissance économique ne peut pas revenir, ne reviendra pas, et il y a plein de raisons possibles.
Hein. Ça fait peur tout de même ce que vous nous dites, ça ne reviendra pas.
Bah, oui, mais peut-être que ça fait peur, parce qu'effectivement, on pense que la croissance économique égale le progrès, égale le développement, etc. Bon, soit on met la tête dans le sable et on attend que ça se passe.
Que la croissance revienne, oui.
Que ça se passe. Soit on regarde, encore une fois, avec bienveillance, encore une fois. Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on peut imaginer une société prospère, comme on l'est aujourd'hui, une qualité de vie? Est-ce qu'on peut imaginer de vivre sereinement si la croissance économique ne reviendrait pas? Et l'idée, c'est pas encore une fois d'apporter des solutions, c'est de se questionner sur ces sujets. Et vous avez beaucoup de travaux, que ce soit Tim Jackson, Jean Gadret, Gaël Giraud, etc., qui ont travaillé dessus. Des économistes qui ont travaillé dans la commission Stiglitz aussi, enfin des gens aussi sérieux qui disent attention, la croissance n'en reviendra pas. Hein. Et on voit bien que toutes les prévisions aujourd'hui sont de l'ordre de 0,5, 1%, etc. Alors qu'on nous a toujours dit qu'il fallait au moins 1,8% de croissance économique pour commencer à créer de l'emploi. Vous voyez, donc les modèles orthodoxes de l'économie classique sont un peu secoués en ce moment. Et puis que ce soit des énergéticiens ou des économistes ou d'autres nous disent non, attention, dans l'état actuel de notre société, du choix de mode de développement, la croissance économique ne reviendra pas. D'où les grandes tentatives et les grands essais aussi des pouvoirs publics de lancer ce qu'on appelle la croissance verte, c'est-à-dire, puisque la croissance traditionnelle ne reviendra pas, essayons de lancer une autre société centrée sur les énergies renouvelables, l'économie circulaire, etc., pour créer de la croissance. Alors, est-ce que
ça va fonctionner, oui.
Etc. C'est des grandes questions.
Prospérité sans croissance, c'est le 4 juin, vous nous l'avez dit, ça a lieu à Nantes.
Exactement, à Nantes. Alors, dans un espace très très particulier que j'invite tout le monde à aller voir, c'est R38. En général, pas grand monde connaît. C'est un espace de médiation, un espace qui développe l'imaginaire. C'est un grand hangar sur l'île de Nantes. R38, les badauds associés.
C'est à côté du hangar à bananes, non?
Et c'est pas loin du mine et pas très loin du hangar à bananes aussi, oui.
Rapidement, avant de se dire au revoir, un bon moyen de comprendre les enjeux de la transition énergétique, c'est de voir le film Libre de Jean-Paul Jaud.
Complètement. Jean-Paul était venu pour commenter son film Nos enfants nous accuseront. Il a sorti donc plusieurs autres films, dont celui-ci. Et j'invite vraiment tout le monde à aller le voir parce qu'il a il l'aborde aussi d'un côté artistique et émotionnel. On a passé cette phase de film dépression. Donc maintenant, il faut donner envie. Voilà. Donc c'est un film extrêmement intéressant.
Émotionnel, mais le film fait tout de même un peu peur. Il parle entre autres de Fukushima.
Voilà, mais les sociétés sans risque, ça n'existe pas. Il y a des choix à faire, voilà. Donc, je pense que c'est tout l'enjeu de demain, c'est qui va faire ses choix. Est-ce que c'est encore une poignée de personnes ou est-ce que c'est un grand nombre? Est-ce que les vrais débats auront lieu?
Merci Bernard Lemoule de toutes ces informations.
Eh bien écoutez, merci à vous pour votre écoute.
Et on vous retrouve sur l'Île-Dieu, on rappelle, du 28 au 31 mai prochain. À très bientôt.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est à demain. Au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.